Chers amis, nous retrouvons Jean-Marie Dujardin, laïc dominicain à Lille. Lors de notre dernière émission, Jean-Marie Dujardin nous a parlé de l'Assomption de Marie. Aujourd'hui, le thème de cette émission, c'est le Christ roi. Bonjour Jean-Marie.
Bonjour Armand. Bonjour à tous les auditeurs qui m'écoutent aujourd'hui, que j'invite à entrer avec moi dans cette méditation sur la fête du Christ roi de l'univers. Les royautés terrestres se sont, depuis toujours, succédées en tous lieux et toutes civilisations, de lignée en lignée, ou par extinction des unes au profit des autres, à la faveur de multiples causes et événements non exempts de processus violents, guerriers, destructeurs et oppresseurs, mais parfois aussi libérateurs et novateurs. Mais il est sûr qu'aucune n'a jamais été définitivement établie. Même si la longévité de certaines d'entre elles est remarquable, et que toutes, sans exception, sont destinées à s'effacer un jour, tout simplement parce que notre monde est périssable. C'est par cette réflexion basique qu'il me semble bon d'introduire cette méditation sur la fête du Christ roi de l'univers. Tout simplement parce que nous pénétrons ici dans un domaine qui dépasse notre monde, un domaine mystérieux, celui de la vraie et de la seule royauté qui est depuis toujours, qui n'aura pas de fin et qui n'a rien de commun avec les royautés de la terre. Créée en 1925 par le pape Pie XI, la fête du Christ roi se situe le dernier dimanche du temps ordinaire et porte, depuis le dernier concile Vatican II, le nom de fête du Christ roi de l'univers. Dans la nuit froide de Bethléem, un petit roi est né, sans que personne le sache, mis à part, grâce à Dieu, quelques pauvres bergers et quelques sages chercheurs. Et puis aussi un ignoble roi humain du nom d'Hérode, informé par ces derniers en quête de renseignements, et qui, jaloux de son pouvoir de puissant dominateur, va s'empresser d'ordonner un massacre pour éliminer ce concurrent gênant. Le Christ, roi de l'univers, nous apparaît donc tout d'abord comme un petit enfant menacé, inoffensif, pauvre et démuni, faible et vulnérable. Mystère étonnant, n'est-il pas vrai? Dieu qui, par son Verbe amoureux, a créé l'homme à l'origine à son image, s'incarne parmi nous en ce Verbe qui est son Fils bien-aimé et se fait ainsi à l'image de l'homme qu'il revêt et épouse totalement. Le petit roi est né. Il est sorti nu du ventre maternel, tout comme nous, nu comme l'étaient nos premiers parents qu'il a créés depuis si longtemps, nu comme il le sera sur la croix, dans le dépouillement le plus complet, la kénose qui le consume et le vide jusqu'à son anéantissement total, jusqu'à ses dernières gouttes de sang et d'eau qui jaillissent de son cœur transpercé, symbole du fleuve d'eau vive de sa parole et de sa vie. Parole que son Église naissante de sa blessure, guidée par son esprit, ne cesse depuis ce jour de présenter au monde et continuera de proclamer jusqu'à l'achèvement de sa mission que sera le retour en gloire de ce roi à nul autre pareil. Visage véritable de l'amour infini et de la miséricorde du Père. C'est là que, ainsi que l'écrit saint Paul dans sa lettre aux Corinthiens au chapitre 15, le Christ, vainqueur du mal par sa croix, après avoir mis sous ses pieds tous ses ennemis, y compris la mort, remettra entre les mains de Dieu, le Père, son pouvoir royal. Jésus en croix nous montre ce pouvoir royal qu'il tient du Père, en accueillant dans son royaume le larron qu'il implore. Aujourd'hui, lui dit-il, tu seras avec moi dans le paradis. Et ce pouvoir ne se montre-t-il pas aussi quand Jésus nous invite à dire à son Père, notre Père, que ton règne vienne. Qui donc aurait pu se permettre de nous faire une telle révélation? Ainsi que nous le rapporte saint Jean au chapitre 12 de son évangile, ce sont les paroles du Père que Jésus dit, et il est venu apporter non pas la domination oppressive, mais le triomphe de l'amour créateur sur la mort engendrée par le péché. Mais ma méditation m'invite à revenir à la kénose, mot dérivé du terme grec kénosis, qui signifie vide, dépouillé. Saint Paul au chapitre 2 de sa lettre aux Philippiens nous en dit ceci. Lui, de condition divine, ne retapa jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'anéantit lui-même, prenant la condition d'esclave et devenu semblable aux hommes. S'étant comporté comme un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort, et à la mort sur une croix. Le voilà donc ce roi, sans royauté apparente, sans courtisan, sans garde d'honneur, sans garde du corps. Paradoxe renversant, l'adieu de l'amour créateur tout-puissant se donne à contempler dans le don gratuit le plus total, le plus inattendu et surprenant qui soit, le don de lui-même, sans retenue, sans condition, jusqu'à mourir, par amour, sur une croix, comme le dernier des criminels. Le voilà donc ce roi, sans apparat, assis sur un âne, qui entre à Jérusalem sous les acclamations d'une foule qui, manipulé et trompé par les dernières manigances du mauvais, va, dans quelques jours, demander sa mise en croix. « Alors tu es roi ?» lui dit Pilate, qui n'a pas conscience de la portée de son questionnement, de même que lui échappe totalement le sens de la réponse de Jésus. « Mon royaume n'est pas de ce monde. Je ne suis venu dans le monde que pour rendre témoignage à la vérité. » Et se profile ici, à travers ces mots débordants de vie que prononce Jésus, l'extraordinaire puissance, invisible mais réelle, de ce roi qui n'a rien de commun avec l'omnipotence et le pouvoir des rois humains de la terre. Puissance de la parole divine qu'il incarne en son humanité, parole créatrice, fondatrice, salvatrice, que rien, pas même la mort, ne peut faire taire ou arrêter. Jésus n'est pas du monde, et il dit à ses disciples qu'eux non plus ne sont pas du monde. Nous lisons cela au chapitre 17 de saint Jean. Suis-je vraiment l'ami de Jésus, son disciple, lui qui nous dit que ceux-ci seront signes de contradiction au sein du monde et qu'ils auront à en souffrir? Posons-nous cette question. Il ne vient pas, ce roi, imposer au monde le pouvoir oppresseur d'un potentat. Il ne vient pas imposer, ni condamner. Il vient révéler, libérer, sauver. Et sa parole dérange le monde, car elle est lumière qui éblouit. Baptisé en Christ, pourquoi aurais-je peur d'appartenir à mon Sauveur face au monde et de le montrer? Je pense au psalmiste. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. C'est au psaume 22, verset 4. Toute la royauté de Jésus, comme il le dit à Pilate, consiste à rendre témoignage à la vérité. Et cette vérité, c'est le Père, qui veut par son Fils nous redonner la vie que nous avions perdue. Il n'y a pas de condamnation, Mais l'annonce, en contradiction complète avec l'esprit du monde, qu'il est l'amour, et que c'est là, et là seulement, que se trouve la seule arme qui combat le mal et en triomphe. Le Christ n'est pas roi à la manière des puissants de ce monde. Il est roi à la manière des béatitudes. Heureux êtes-vous si l'on vous persécute et si l'on dit toutes sortes de mal sur vous à cause de moi, car votre récompense est grande dans les cieux. Reportons-nous à l'évangile de Matthieu, chapitre 5, versets 1 à 12. Jésus nous fait rois avec lui par la seule puissance de l'amour face à la haine et au mépris. C'est de la force invisible, mystérieuse, de l'amour et de la miséricorde du Père qu'il nous montre par son don total que se trouve la victoire, la seule, vraie et définitive, l'éternelle et toute puissante royauté, délice qui nous est offert de l'amour fou de Dieu, qui ne punit pas, qui ne veut pas la mort, mais qui veut le salut de l'homme. Je ne suis pas venu juger le monde, nous dit Jésus, mais le sauver. Pouvons-nous lire en Saint Jean, chapitre 12, verset 47. Le royaume est parmi vous, nous dit Jésus, en Luc 12, 21. Oui, parmi nous, parce que Jésus, comme il nous l'a promis, est avec nous tous les jours, et que sa parole royale nous introduit d'ores et déjà dans son royaume, et nous le promet pour l'éternité, si nous acceptons de l'entendre et d'en vivre de notre mieux. Qu'est-ce à dire? Revenons aux béatitudes. Il est là, le secret du royaume auquel Jésus nous appelle. Ce secret, c'est lui, Jésus, qui triomphe de l'orgueil et de l'égoïsme du monde par l'humilité, la pauvreté et la disponibilité du cœur. C'est lui qui nous montre, comme avec la femme adultère menacée de lapidation, que la vérité, la douceur et la patience triomphent de la violence et des larmes. C'est lui qui fait réponse à ceux qui crient justice en les justifiant. C'est lui, le flot intarissable de la miséricorde du Père, au cœur transpercé sur la croix, qui fait miséricorde au miséricordieux et à tout homme qui se tourne vers lui. C'est lui qui illumine les cœurs éprouvés par le mensonge du monde. C'est lui, vainqueur de la mort, qui comble les assoiffés de paix en faisant d'eux des fils de Dieu par la foi. C'est saint Paul qui nous dit cela, dans sa lettre aux Galates, au chapitre 3. Oui, le royaume est au milieu de nous. Il nous est montré inlassablement par Jésus dans sa parole de vie, lui-même présence de ce royaume dans notre monde, et qui nous invite à aimer, à prendre notre croix et à le suivre, c'est-à-dire à être comme lui, par la grâce de notre baptême, des rois, des êtres de paix, d'amour, de miséricorde, des témoins à temps et à contre-temps de ce que seul l'amour, ainsi que le disait saint Maximilien Kolbe, est une force de création, fût-il faible et vulnérable. Oui, Seigneur, tu es mon seul roi, mon seul Seigneur et Maître. Tu es celui qui est de toute éternité, et sans toi, je ne suis pas. Et c'est dans l'allégresse qu'avec le psalmiste au psaume 92, je me réjouis et célèbre ta royauté bien-aimée, que je proclame et que j'adore. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence, le Seigneur a revêtu sa force. Et la terre tient bon, inébranlable. Dès l'origine, ton trône tient bon. Depuis toujours, tu es.
Merci beaucoup Jean-Marie. Je rappelle que vous êtes laïc dominicain à Lille, À très bientôt pour une nouvelle émission au rythme de l'année liturgique.
Avec plaisir, merci. Au revoir Armand.